Sud Radio, le grand matin était 7h10. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
Oui, Benjamin, le gouvernement l'a annoncé. Il souhaite que le pass sanitaire entre en vigueur dès lundi en France, avec l'extension du pass aux centres commerciaux, par exemple, l'obligation vaccinale, les sanctions pour certains salariés, comme ceux qui sont dans la restauration ou les musées, pour les soignants, ou encore les 10 jours d'isolement obligatoire pour les testés positifs au Covid. Et c'est notre question du jour, Covid-19 anti-pass. Souhaitez-vous que le Conseil constitutionnel retoque le projet de loi sur le pass sanitaire? N'hésitez pas à continuer de réagir au 0826 300 300 ou sur notre compte Twitter Sud Radio. Et pour en parler avec nous, on reçoit Gilbert Collard, député européen du RN, et Monique Iborra, députée LREM de Haute-Garonne. Bonjour, bienvenue à vous deux.
Bonjour.
Bonjour à vous. Un grand merci déjà d'avoir accepté de débattre avec nous et nos auditeurs sur Sud Radio. Monique Iborra, ce serait une défaite pour le président, le gouvernement et sa majorité si le Conseil constitutionnel venait à retoquer ce projet de loi instaurant notamment l'extension du pass sanitaire?
Non, je pense pas. On n'est pas dans cette configuration-là. C'est le Premier ministre lui-même, avec les partis d'opposition, bien sûr, mais le Premier ministre lui-même qui a demandé l'avis du Conseil constitutionnel. On est dans une situation inédite et on doit, en tant qu'élu responsable, on doit finalement admettre que l'État doit la protection aux citoyens au regard de cette pandémie qui est déjà fait, je vous le signale, et vous le savez, plus de 120 000 morts, et la préservation des libertés individuelles et évite des ruptures d'égalité. Et il est donc tout à fait normal de demander son avis au Conseil constitutionnel. Alors, certains disent, finalement, en effet, vous l'avez évoqué, ce serait un échec. Honnêtement,
c'est quand même toute la stratégie sanitaire de l'exécutif qui réside d'une certaine façon dans son projet de loi.
Oui, mais en même temps, d'abord, rien ne dit que... Il va falloir attendre ce soir.
Bien sûr.
Rien ne dit que le Conseil constitutionnel annulera le pass. Mmh. D'abord parce que c'est pas forcément dans ses attributions, dans la mesure où, en effet, le Conseil constitutionnel peut faire des réserves au-delà de l'acceptation du pass. Ces réserves, elles peuvent être de différentes natures, et je pense que en ce qui concerne un certain nombre d'entre elles, pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, nous devons à la fois, sur une situation qui est très compliquée, qui demande beaucoup de courage de l'exécutif, contrairement à ce qu'on peut penser, qui doit concilier la protection que l'on doit et en même temps la liberté auxquelles les Français sont tout à fait attachés. Donc, je pense qu'il peut y avoir des modalités qui sont différentes et que nous serons à l'écoute
De l'avis du Conseil constitutionnel qu'on attendra donc aujourd'hui. Gilbert Collard, dans l'entourage du Premier ministre, on affirme, on peut le lire dans Le Parisien aujourd'hui en France, là, ce matin, qu'on ne craint pas forcément de censure de la part du Conseil constitutionnel, tout au plus quelques recommandations. Si effectivement c'est le cas, que le projet de loi n'est pas retoqué, c'est quoi l'enseignement que vous en tiriez?
Écoutez, d'abord, il faut rappeler une première chose, c'est que le défenseur des droits, ce n'est pas rien, un défenseur des droits dans une démocratie, a lancé 10 alertes, pas une, pas deux, 10 alertes concernant les atteintes aux libertés fondamentales causées par ce texte. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un parti politique, ce ne sont pas des polémistes, ce ne sont pas des acharnés anti-vax, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi je ne suis pas contre les vaccins, loin de là, mais c'est le défenseur des droits. Donc il faut quand même se demander si le Conseil constitutionnel, qui est composé en grande partie, en partie, complètement du reste, de personnes nommées par le monde politique, le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.
En l'occurrence, pour être précis, 4 des membres sur les 9 ont été nommés au cours de ce quinquennat d'Emmanuel Macron.
Voilà.
Pas forcément par le président lui-même.
Non.
Comme vous le disiez, effectivement.
Donc, franchement, moi, je ne nourris pas de grand espoir dans un Conseil constitutionnel.
Vous avez peur d'une décision politique, en fait.
On peut le craindre, voilà. On peut le craindre. Tout peut arriver, vous comprenez. Il y a quand même une forte pression, pour reprendre l'horrible mot de Castaner au sujet des citoyens, des constitutionnalistes, parce qu'il y a beaucoup de professeurs de droit constitutionnel, il y a beaucoup de juristes qui disent attention quand même, si vous ne faites pas des réserves d'interprétation, que le gouvernement doit suivre. et qui équivalent quand même à une obligation de modifier le texte. Hein. Et puis, il y aura les QPC aussi. C'est pas fini.
Parce les questions prioritaires de constitutionnalité.
Les questions prioritaires de constitutionnalité qui vont arriver. Bon, on peut prendre plusieurs exemples constitutionnels. Bon, on a, par exemple, l'isolement obligatoire. Il est potentiellement disproportionné.
De 10 jours.
Parce que, de 10 jours, voilà.
Sur là, les testés positifs.
Il vient en contradiction avec l'article 66 de la Constitution qui dit que nul ne peut être détenu arbitrairement. Et d'après le Conseil constitutionnel, au-delà de 12 heures, c'est une détention qui est arbitraire. Il l'a lui-même jugé. Bon. Alors, comment enfermer des gens sans l'intervention du juge ? On peut imaginer que là, le Conseil constitutionnel va intervenir. Sinon, il va se mettre en contradiction avec sa propre jurisprudence et ça ne sera pas, croyez-moi, d'un bel effet. La suspension du contrat de travail, par exemple, et la suspension de la rémunération, ça vient complètement en violation du droit du travail. Bon, alors, il y a, à mon avis, moi je parle en juriste, là, j'essaie pas de polémiquer. Hein, bon. Le texte, il est, à certains égards, inintelligible. Et parfois, il est complètement disproportionné par rapport au but poursuivi, parce que si on fait une analyse objective, il y a autant de doctrines en faveur du pass médical, hein, j'entends, hein, que de doctrines médicales contre. Aujourd'hui, par exemple, on apprend que Médecins du Monde, bon, ces Médecins du Monde sont des médecins qui appartiennent à une ONG, bon, considèrent que le pass sanitaire est discriminatoire. Ce ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des militants, ce ne sont pas des ignorants de la médecine. Alors vous voyez, il faut quand même qu'on cesse d'être catégorique, parce qu'il y a des avis qu'il faut prendre en compte.
Et voilà. c'est pour ça qu'on en débat aussi ce matin, et c'est important justement qu'on puisse en débattre de manière sereine, comme on le fait jusqu'à présent. Monique Iborra, vous entendiez justement Gilbert Collard sur ses réserves qu'il avait, notamment sur l'isolement, sur la question des suspensions de salaire, des suppressions de salaire. Est-ce qu'on ne risque pas là remettre en question certains principes constitutionnels, à savoir la question de la liberté de circulation, l'égalité entre chaque citoyen avec la question du pass sanitaire. Justement, quel est votre avis à ce niveau-là ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement ?
Oui, avant de donner mon avis, que je vais donner, bien sûr, M. Collard, là, intervient en tant que juriste. Il oublie de nous dire qu'il intervient aussi au titre du parti politique.
Et on l'a précisé, et Marilyn l'a précisé au début de ce débat, qu'il est député européen du Rassemblement National. Effectivement. Voilà. Gilbert Collard, c'est bon. Monique Iborra, pour répondre à la question sur ce risque de rentrer en contradiction avec certains principes fondamentaux, en l'occurrence de notre Constitution, et des droits fondamentaux
Je vous le disais dès le départ. C'est la raison pour laquelle, en effet, il est licite, il est normal que le Conseil constitutionnel puisse s'exprimer sur le sujet. Néanmoins, on n'est pas resté les bras croisés. Je pense qu'au Parlement, dans la commission médicale, dans la commission consultative, avec les sénateurs et les députés, j'étais moi-même toute la journée à l'Assemblée nationale, et j'entendais, j'écoutais, je me tenais informée de cette commission. Tout a été fait justement pour concilier à la fois, encore une fois, la responsabilité que nous avons de protéger les gens. Nous devons les protéger. Or, aujourd'hui, nous savons que la vaccination, on reviendra peut-être là-dessus, parce que nos auditeurs ont besoin aussi, ceux qui sont, que je respecte, ceux qui se posent des questions, ceux qui se disent, après tout, est-ce que vraiment je dois me faire vacciner ?
Il
faut qu'ils entendent un certain nombre de choses, au-delà de l'aspect juridique, qui est très important, je suis d'accord. Donc, nous avons tout fait. Et les sénateurs qui sont pas... qui ne sont pas LREM. Et les députés qui sont LREM, nous avons tout fait pour faire en sorte que le texte qui était proposé, le projet de loi qui était proposé par le gouvernement, eh bien, puisse être, en effet, accepté et équilibré. Alors, je ne dis pas qu'on a tout fait bien, mais je dis qu'on a pris nos responsabilités et que, en effet, dans cette situation, je vous rappelle, ça fait quand même...
C'est l'idée de proportionnalité que vous dites entre les mesures que vous prenez et l'ampleur de la crise qu'on connaît. En gros, si je vous suis bien, c'est ça.
Absolument, c'est ça. Et on l'a voté, je l'ai voté, d'autres l'ont voté en responsabilité.
Juste d'un mot, parce qu'il y a aussi la question des zones d'ombre. Il y a encore beaucoup de flou dans ce projet de loi, dans ce texte notamment. On en parlait à l'instant avec Gilbert Collard sur, sur la question des salaires, notamment la suspension de salaire, mais aussi des licenciements des salariés non vaccinés. Alors là, on parle des soignants, ou alors des salariés qui ne sont pas munis d'un pass sanitaire. On pense par exemple aux serveurs. Au début, le Parlement, on nous a dit que finalement, ça serait pas, il n'y aurait pas de licenciement. La ministre du Travail est revenue là-dessus en disant que c'est possible, que possiblement il y aurait de tels licenciements en cas de non-présentation d'un pass sanitaire ou si on n'est pas vacciné. Est-ce que finalement, pour être clair sur cette question, est-ce que ces personnes-là risquent d'être licenciées dans ces situations ?
Je pense que il est quand même compliqué d'imaginer qu'on demande dans les restaurants aux personnes qui viennent se restaurer dans l'établissement un pass sanitaire et qu'on ne le demande pas pour les gens qui vont les servir. Là, il y a aussi une anomalie qu'il nous faut dépasser. Mmh. Et pour ce qui est du licenciement, en effet, ça paraît peut-être démesuré. Ce que dit la ministre, ce qu'a dit la ministre du Travail, mais qui n'est pas apparu dans la loi, puisque la loi devra faire l'objet de circulaires d'application, évidemment. Oui. Ce qu'elle dit, elle, c'est que ce qui était prévu, que le droit commun du Code du Travail permettra, même si nous-mêmes, en commission paritaire, nous l'avons éliminé, permettra in fine le licenciement. Et ce qu'elle dit, elle souhaitait pouvoir l'encadrer, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne s'applique pas avant 2 mois, que d'autre part, les indemnités prévues, qu'il y ait des indemnités prévues pour le salarié, alors que la loi telle que nous l'avons votée, évidemment, n'a pas évoqué ces dispositions.
Gilbert Collard, vous l'entendez, ça c'est une précision finalement de la ministre du Travail où finalement on va au-delà de la décision là, du Parlement, du vote du Parlement?
Non, mais d'abord, c'est une observation nécessaire pour montrer à quel point on tient un discours un peu délirant de l'autre côté. Bon. On vient d'entendre qu'il ne serait pas normal que les clients des restaurants soient obligés à avoir un pass et que les serveurs n'y soient pas obligés. Les policiers qui contrôlent n'ont pas l'obligation du pass sanitaire. Où est la cohérence? Franchement, où est la cohérence?
Monique Iborra vous écoute, elle peut vous répondre d'ailleurs, hein, si vous voulez lui répondre, Monique Iborra, sur cette question-là.
Non, mais attendez, si vous permettez quand même. D'abord, moi, une chose, je vais quitter l'antenne, parce que si je ne peux pas intervenir dans le débat, et si vous me coupez le micro, ça n'a aucun intérêt.
On ne vous a pas coupé le micro, Gilbert Collard.
Alors là, ce n'est pas un débat, vous comprenez, c'est un soliloque de part et d'autre.
Allez-y.
Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein.
Bon, je vais mais on s'écoute.
Venir à l'antenne pour réciter des leçons, ça n'a pas d'intérêt. Bon, vous comprenez. Voilà. Je vous le dis avec beaucoup d'amabilité, hein, bien sûr. Hein. Bon. La question fondamentale, c'est de savoir si... D'abord, la question va se poser de savoir si ces vaccins, sont d'une réelle efficacité ou pas. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je peux avoir tort, mon adversaire verbal peut avoir tort, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais ce qui compte aujourd'hui. Et là, je veux dire que quand la sanction du temps va tomber, ça fera mal. Hein. Parce que si on est obligé de reconfiner, malgré la vaccination, si, comme le docteur Fauci aux États-Unis l'a dit, il ne faudrait quand même pas l'oublier, directeur de la NIAID, hein, Anthony Fauci, qui a dit, attention, le vaccin ne protège pas, il n'empêche pas la contamination, et il n'empêche pas la transmission. Bon. Alors donc, il ne faudrait quand même pas l'oublier, ce n'est pas n'importe qui, lui. Mais ça, c'est le temps qui nous départagera, hélas. Et ceux qui auront prôné à tout prix la vaccination, si on se rend compte qu'il faut retourner à des mesures de confinement, et qu'on passe de 2 injections à 3, ce qui est annoncé, avec des augmentations du prix des vaccins, Pfizer a augmenté de plus de 20%. Son vaccin.
Tout à fait.
Bon, ça va quand même poser problème. Alors moi, ceux qui plaident absolument en faveur du texte tel qu'il est, ils prennent leurs responsabilités, je respecte, hein, chacun son opinion, je respecte tout à fait. Mais quand le gong va sonner, ça peut quand même poser quelques problèmes de responsabilité. Bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne raisonne pas, on peut quand même par moment, n'en déplaise à mon adversaire, à mon opposition verbale, On peut parfois dépasser la politique, hein. On peut dépasser la politique et se contenter de faire des analyses juridiques. C'est pas inutile, c'est pas bête. Et il y a de nombreux professeurs de droit constitutionnel qui sont pas à droite, qui sont pas à gauche, qui le sont peut-être, qui sont peut-être pas, qui disent attention, le défenseur des droits a raison. Je veux dire que vous avez remarqué que sur la question que je pose de l'intervention du défenseur des droits, il n'y a pas de réponse de l'autre côté. On n'en discute pas. J'ai pas entendu dire un mot sur les 10 observations. Du reste, j'ai envie de demander si elles sont connues, ces observations. Est-ce que vous les connaissez, les observations du défenseur des droits? Je vous pose la question.
Vous m'interrogez, M. Collard.
Pardon?
Vous m'interrogez, Monsieur Collard.
Oui,
parce que maintenant, c'est Monsieur Collard qui fait l'interview. Alors, je précise avec beaucoup d'amabilité à mon tour, Gilbert Collard, vous avez un petit peu d'avance sur le temps de parole et effectivement. Mais c'est juste, je vous le dis avec beaucoup d'humour, bien sûr.
Oui, mais je le prends comme ça, vous inquiétez pas. Mais oui. Moi, j'aimerais savoir si au moins on
sur la question du défenseur des droits.
Écoutez, Monsieur Collard, on voit ce qu'il veut faire. Il veut revenir essentiellement sur le juridique. Moi, j'aimerais bien aussi, je veux bien revenir. J'aimerais bien aussi qu'on revienne, qu'on réponde. Je vais vous répondre. J'ai envie de répondre, contrairement à vous. Vous haranguez les foules. Moi, j'essaye de faire des choses sérieusement.
S'il vous plaît, on s'écoute. Allez-y, Monique Ibarra. Venez-y à votre point.
Donc, on voit bien ce que cherche M. Collard. Très bien, parfait, elle est là pour ça et elle est dans son rôle.
Ça, alors, vous l'avez
bien
dit.
Sûr qu'on, bien sûr qu'on les connaît. Et bien sûr que le défenseur, bien sûr que le défenseur des droits, et heureusement en démocratie, est dans son rôle.
S'il vous plaît, Gilbert Collard, laissez-la parler, là. Elle n'a même pas pu finir sa phrase.
Je ne suis pas là pour répondre à vos injonctions.
Allez-y, Monique Ibarra.
Ce ne sont pas des injonctions.
Je pense qu'en effet, c'est notre responsabilité. Ça devrait être celle des élus, y compris s'ils sont députés européens. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Notre responsabilité, c'est de voir justement comment... À partir de, encore une fois, de cette situation qui font des morts. Contrairement à ce que dit M. Collard, il cite une ou deux interventions. Moi, je fais confiance aux scientifiques. Quand il y a aujourd'hui 4 milliards de personnes qui sont vaccinées dans le monde, que l'ensemble des scientifiques mondiaux travaillent sur le sujet, et que, à partir du moment où on nous dit et on a quelque chose en réel, en réalité. Quand vous voyez que en réanimation aujourd'hui, 85% des gens qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés, que c'est déjà un élément qui est quand même au-dessus de ce que vous dites, vous, et qui est tout à fait orienté. Vous faites de la récupération politique bête et méchante, qui ne vous servira pas. Qui ne servira pas parce que la majorité des Français aujourd'hui, en effet, sont rétifs quand on leur parle de suppression de liberté. Mais par contre, c'est un peuple qui est rationnel et qui juge sur les faits. Et aujourd'hui, ce que vous faites, vous et d'autres, mais votre parti politique et d'autres, est irresponsable, mais ne vaudra pas en face de la détermination des Français. D'ailleurs, on a un exemple aussi qui est évident, et c'est ça qui vous ennuie le plus. C'est ça qui ennuie les partis politiques aujourd'hui d'opposition. C'est que Emmanuel Macron étant intervenu, le lendemain, 4 millions de Français avaient été se faire vacciner.
Je voudrais répondre là.
Alors répondez rapidement et puis après on va laisser passer une petite page de pub et on se retrouvera juste après. Voilà. Allez-y Gilbert Collard.
Première observation, elle n'a pas répondu à ma question, elle a simplement trouvé le moyen de dire que je faisais de la récupération bête et méchante. C'est elle qui m'a plutôt l'air ma contradictrice bête et méchante parce que elle n'a pas été capable.
Elle parlait aussi de la crise sanitaire au-delà de la question du juridique aussi.
Mais bien sûr, mais la crise sanitaire, écoutez, on peut revenir à toutes les données, on est en phase d'expérimentation. Tous ces vaccins sont en période conditionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne seront définitivement testés qu'en 2022-2020...
Ça sera la fin officielle de la phase 3. Voilà, alors, pour être précis avec nos auditeurs, c'est-à-dire que la phase 3, la dernière phase, a été accélérée sur les résultats. On a eu les résultats en novembre, à peu près, de l'an dernier, ce qui a fait qu'on a pu les mettre sur le marché, mais qu'effectivement, pour avoir justement des données sur un plus long terme, effectivement, la phase 3 s'arrêtera dans 2-3 ans.
Voilà. Moderna, c'est octobre 2022, Pfizer, c'est mai 2023, et Johnson, c'est décembre 2023. Voilà. Donc, comme le disait Dupond-Moretti, je ne pense pas que ma contradictrice va critiquer Dupond-Moretti, qui ne voulait pas que les détenus soient des cobayes, il l'a dit. On ne fera pas de vaccination collective dans les prisons parce que, je cite, les détenus ne sont pas des cobayes. Bon, voilà.
Et donc là, ce que vous dites, Gilbert Collin...
Il parlait de leur situation particulière dans les prisons. Oui. C'est n'importe quoi.
Quand on est en dehors d'une prison, on n'a pas le droit de pas être des cobayes.
Parce que la question aussi qui se pose, juste en un mot, c'est qu'au final, est-ce que derrière ce pass sanitaire, on a finalement une obligation vaccinale à demi-mot, quoi. En gros, c'est ça un peu l'idée.
Bien sûr, et c'est du reste, à mon avis, c'est là-dessus que le Conseil constitutionnel devrait se prononcer, parce qu'il y a une obligation vaccinale qui n'est pas prévu par la loi. Voilà. Et là, ça vient en violation de l'article 5 de la Constitution. L'obligation vaccinale, elle est contrainte, comme l'a dit du reste monsieur Castaner. On a fait un peu pression. Hein, il a lui-même admis qu'il y avait eu une pression qui avait été faite sur les Français, ce qui est pas mal pour les obliger à se vacciner. Et bien ça, c'est contraire à la loi. Parce que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas. Or, la loi, elle oblige par des contraintes indirectes à la vaccination, mais elle n'a pas le courage, parce que le Parlement a eu peur de le faire, d'ordonner la vaccination.
Et, ça
viole l'article 5.
On va faire réagir justement Monique Iborra dans un instant, juste après la pub. Monique Iborra, députée LREM de Haute-Garonne. Vous restez avec nous aussi, Gilbert Collard, un député européen du RN, pour cette question. Vous la rappelle, vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826-300-300. Souhaitez-vous le Conseil constitutionnel retoque le projet de loi sur le pass sanitaire? Son avis sera rendu aujourd'hui. Restez avec nous, on en parle, on en débat de nouveau. On continue dans un instant sur Sud Radio, c'est chaud.
Sud Radio, le grand matin, était 7h10. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
Bonne matinée à tous sur Sud Radio, il est 9h31. Parlons vrai sur Sud Radio, on continue le débat autour de la question du jour. Souhaitez-vous que le Conseil constitutionnel retoque le projet de loi sur le pass sanitaire? Avec nos invités, Gilbert Collard, député européen du Rassemblement National, et Monique Iborra, députée La République En Marche de Haute-Garonne.
Oui, c'est un peu parlons vrai, parlons fort aussi dans ce débat. En tout cas, justement, on essaye d'avoir ce débat de manière sereine pour avoir vos avis de chaque côté. Gilbert Collard, vous parliez de ce pass sanitaire qui pouvait être envisagé comme une forme d'obligation vaccinale cachée à demi-mot. Monique Iborra, il vous faisait réagir sur la question de, voilà, peut-être que vous n'avez pas osé tout simplement faire cette obligation vaccinale, quoi. Est-ce que c'est comme ça, finalement, que vous avez appréhendé les choses?
Moi, je pense que ce qui a été appréhendé, c'est l'état de ce que peuvent penser les Français quand on sait, et c'est dit et c'est redit, à quel point les Français sont rétifs à tout ce qui est obligation, quelle soit. Il nous est apparu qu'avec ce pass sanitaire, qui contrairement à ce qu'on veut faire passer, ce que veulent faire passer les oppositions, et en particulier évidemment M. Collard, c'est de dire ce pass sanitaire réduit votre liberté. Nous sommes sur une appréhension complètement différente. Au contraire, avec le pass sanitaire, nous espérons, nous pensons et nous arriverons au fait qu'on ne va pas reconfiner, parce que ça, c'était une vraie privation de liberté réelle. Et avec ce pass sanitaire, au contraire, vous pourrez vous déplacer, vous pourrez aller au restaurant, vous pourrez aller à l'étranger. Et c'est dans cette optique-là que nous avons opté pour le pass sanitaire. Si nous avions dit ce que disent en particulier les partis socialistes, le Parti socialiste, si nous avions...
Qui était favorable à l'obligation vaccinale, oui.
Voilà, très bien. L'obligation vaccinale, on oblige tout le monde. Mais le problème, et la question a été posée au Parlement, comment faisons-nous? Comment faisons-nous? Dernière chose, les vaccins, on a l'impression que les vaccins, c'est quelque chose qui vient d'être créé, voilà. Certes, ils ont été, en effet, pensés, créés, mis en place pour ce variant, mais les vaccins, les politiques vaccinales, elles existent depuis, et heureusement pour nous, que les soignants eux-mêmes pour rentrer à l'hôpital, pour travailler, ils sont obligés d'avoir eu un certain nombre de vaccins. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement farfelu que de dire que les vaccins protègent. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas le recul sans doute nécessaire et qui viendra au niveau d'un certain nombre de données en 2022, en 2023.
On le disait imaginez, effectivement avec Gilbert Collard. Oui.
Imaginez que nous n'ayons pas eu les vaccins. Imaginez-le et faisons en sorte de regarder encore une fois ce qui se passe aujourd'hui dans en réanimation. 85%, je le répète, des gens qui sont là ne sont pas vaccinés.
Allez, la parole aux auditeurs qui nous appellent.
Oui, chers invités, au standard, on a une réaction d'un auditeur. Didier de Martigues, il veut réagir sur ce sujet. On vous
bonjour,
écoute.
Didier.
Bonjour Didier. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour aux auditeurs.
Bienvenue. Votre réaction justement sur cet avis du Conseil constitutionnel, qu'est-ce que vous attendez vous? Et puis par rapport au débat qu'on a depuis tout à l'heure.
Oui, alors c'est un débat super intéressant de Gilbert Collard et de la députée Madame
Monique Iborra.
Députée
à l'OM de Haute-Garonne.
Alors avant de donner mon avis, j'aimerais faire quand même une distinction entre la santé, le vaccin et les partis politiques. Dans le sens où on peut être macroniste et être contre le vaccin, et on peut être lepéniste et être pour le vaccin, et vice-versa. Donc déjà, il faut distinguer les deux. Ce que je veux dire dans ce sens, c'est que moi, personnellement, j'ai fait le choix de croire au vaccin. C'est un choix relatif, hein. C'est un choix relatif parce qu'il y a de très bons arguments contre le vaccin et il y a de très bons arguments pour le vaccin.
Effectivement, il y a encore, on verra bien sûr, tout n'est pas connu en tout cas.
Tout à fait. Et je respecte complètement ceux qui ne sont pas vaccinés. Hein. Ouais. D'ailleurs, la plupart de mes amis ne sont pas vaccinés. Ce que je veux dire par là, pour revenir à la Constitution, à partir du moment où il y a un flou, je pense que la Constitution, que la loi doit être retoquée. De mon point de vue. Pourquoi nous avons par exemple la ministre du Travail qui est par rapport aux salariés.
Sur les licenciements.
Un salarié qui travaille dans le médical, s'il n'est pas vacciné, il est suspendu. Madame la ministre du Travail ne fait pas la distinction entre une suspension et un licenciement. Elle n'exclut pas le licenciement. Alors que, comment dire, de mon point de vue, les sénateurs, les sages, par contre, eux, ils font la différence, ils excluent le licenciement, par contre, par rapport à la suspension. Donc déjà, c'est un flou qui, pour moi, est majeur. À partir du moment où il y a ce flou, je prône un retoquage de la loi.
D'accord.
Mais ça n'empêche pas que je suis pour le vaccin.
Eh bien, on l'aura compris. Merci pour votre témoignage. Didier, pour le coup, très clair. Et on va conclure justement ce débat. Merci à vous, Didier. Et puis, restez bien sûr à l'écoute de Sud Radio. On va conclure ce débat avec une question qu'on voulait vous poser avec Marilyn sur ce pass sanitaire, donc, qui devrait entrer en vigueur, notamment, normalement, à partir de lundi prochain. On verra en fonction de l'avis du Conseil constitutionnel aujourd'hui. Mais une question, vous concernant les parlementaires, alors concernant surtout Monique Iborra, députée LREM de Haute-Garonne, plus que Gilbert Collard, député, là pour le coup, européen.
J'ai une question justement sur ce fameux pass sanitaire qui est obligatoire pour tous les Français dans tous les lieux publics fermés. Or, il semble que pour tous les parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, il n'est pas prévu a priori qu'il soit obligatoire ce pass. Comment vous l'expliquez ?
Oh, mais on l'explique, y compris juridiquement. On ne peut pas, la Constitution fait que on ne peut pas empêcher des parlementaires d'avoir leur activité de parlementaire.
Attendez, Gilbert Collard, on va vous faire réagir juste après. Monique Iborra, oui.
Donc, on ne peut pas nous empêcher de faire notre travail de parlementaire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un devoir d'exemplarité pour montrer aux Français
alors, Gilbert, en
tant que... Non, mais attendez, je finis. Oui. Bien sûr qu'il y a un devoir d'exemplarité. Évidemment, c'est la raison pour laquelle les députés doivent être vaccinés.
Gilbert Collard, pour conclure. Ce qui est la majorité d'ailleurs des députés qui sont vaccinés, de très grande majorité.
Mais évidemment.
Oui, bon, d'abord, je prends acte que Mme Iborra a consenti qu'on n'avait pas de recul. Hein. Pas de recul. Bon, donc la vaccination se fait
immédiat.
En l'absence... Bah, un recul immédiat, ça ne veut rien dire. Il faut du temps, par définition. Hein, il ne faut pas mettre des contradictions.
Bon, il y a eu un rapprochement très rapide qui n'aura pas duré très longtemps. Allez-y, Gilbert Collard.
Pour conclure, allez-y. Il ne peut pas y avoir de rapprochement.
Très vite, hein. Oui, j'entends bien.
J'ai connu une époque à l'Assemblée nationale, qui n'est pas lointaine, hein, où on n'entrait pas dans l'hémicycle si on n'avait pas une cravate. Vous pouvez vérifier.
Moi, je n'ai pas connu ça. Pourtant, ça fait un moment que
je suis... Le jour où vous pensez une cravate, le jour j'aimerais prendre une photo.
N'importe quoi.
Le jour où vous pensez une cravate, sur celle de la Légion d'honneur, Voilà, ben on pouvait pas entrer dans le Parlement. Voilà, vous pouvez vous renseigner, les huissiers, oui, et c'est quand la France insoumise est arrivée au Parlement qu'il y a eu cette modification. Voilà. Quelqu'un d'ivre entre pas dans le, un député ivre entre pas dans l'hémicycle.
Mais c'était pas une mesure constitutionnelle, c'est du n'importe quoi, franchement.
Oui, non, mais madame.
Bon, on terminera là-dessus.
Comme les oies, en tout cas, vous êtes gavés de n'importe quoi.
Pas d'attaque, s'il vous plaît, là-dessus. En tout cas, bah, on a eu jusqu'à présent un débat plutôt apaisé. Bon, voilà, ça se finit un petit peu plus direct. Un crochet du gauche, crochet du droit. Bon, on retiendra surtout les arguments précédents et le débat qu'on a pu avoir grâce à vous, en tout cas. Monique Iborra, députée LRM de Haute-Garonne, je le rappelle, et puis Gilbert Collard, député européen du Rassemblement National. Un grand merci en tout cas d'avoir accepté le pari de débattre entre vous et avec nous, avec nos auditeurs sur Sud Radio. Merci et bonne journée à vous. Allez, 9h.
Merci à vous.
Merci à vous. Allez, 9h40 sur Sud Radio. On va s'étendre un petit peu et on va se faire plaisir avec les arts culinaires. Tout de suite.